Et Jackie Chan, il en pense quoi de ta grossesse?
Bah, il accepte, puisqu'il est là.
Et tu lui as dit pour tes seins, parce que ça va lui faire un choc hein, quand il va apprendre qu'en fait, t'en as pas.
Oui.
Je retire. Ah, c'est quoi cette poigne?
C'est ton compte, là?
Les filles, vous m'entendez?
Yes, we hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Una R2 vous.
Hey boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una R2 vous. We're gonna be fine. Now go away now.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Un premier film, c'est un moment unique dans une vie. Comme un premier enfant, mais que l'on fabriquerait pour les autres, pour nous, le public. Et ce matin, toute la famille est là, au-dessus du berceau. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un film sur... Un film sur l'époque, sur la filiation et qui s'affranchit du modèle parental traditionnel. Diane a les épaules, il est sorti mercredi. Bonjour Fabien Gorgeat.
Bonjour.
Alors, c'est vous qui avez imaginé et filmé cette histoire. Une femme accepte de porter l'enfant de ses deux meilleurs amis, deux hommes, et pendant sa grossesse, tombe amoureuse d'un troisième. Bonjour, Clotilde M.
Bonjour.
L'étincelle de ce premier film écrit pour vous, Diane, légère, grave et désinvolte. Face à vous, un vrai couple de futurs parents incarné par Grégory Montel et Thomas Suir. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Un couple qui devra faire avec le troisième homme de l'histoire. Bienvenue Fabrizio Rongione.
Bonjour.
Diane a les épaules, un film drôle et doux, profond, sensible, bref, un charme fou. Face à vous cette semaine, d'autres histoires, un summer, une Marilyn, un musée des merveilles, le paradis ou Bangkok la nuit. Et si on commençait par le début, ça serait pas mal, non? L'ouverture de Diane à les épaules dans un pub avec elle, Clotilde M.
Attention, hey, hello, Jimmy Connors! Ooh, come here!
Jimmy Connors is actually American, not Irish, you know.
Ah bon? You sure he's not Irish? Oh my god, I'm so stupid. You know, I'm a girl so stupid. And you're clever, I can see it. Oui, oui, you're clever. But why you put your hand here when you laugh?
Sorry?
Why you do that?
Yes, you have your... T'as encore ton appareil dentaire.
Non, mais... Ah, mais non. Ah, en fait, t'as des vrais dents de merde. And you should use your two hands, hein, en fait. Parce que t'as pas de, you don't have dentist in Belfast. That's why you should take, comment dire, prendre un mutuel. Non? Ah, oh, mais Jimmy, non, mais Jimmy. Ah, attends, non, mais, you know, I can kiss you without thinking of your teeth. Really. You know, I can separate my mouth from my brain. Yeah.
Je peux séparer ma bouche de mon cerveau. Astuce scénaristique pour lancer l'histoire de Diane qui tentera, elle, de séparer son ventre de sa tête en attendant un enfant pour ses deux amis Thomas et Jacques. C'est un thème qui vous taraude, la grossesse, Fabien Gorgeat. Déjà, c'était dans vos précédents courts-métrages.
Oui, c'est vrai. En tout cas, j'avoue être un peu obsédé par les questions de procréation un peu décalées. Fabrizio et Thomas ont joué dans un cours qui s'appelle Le sens d'orientation, oui. Où le personnage de Fabrizio était stérile et n'avait pas osé le dire à sa femme. Et ouais. Il était en train d'essayer d'avoir un enfant. Donc, il portait un peu ce mensonge-là. Et le court-métrage avec Clotilde, Un chien de ma chienne, effectivement, qu'on a fait avec ses deux autres sœurs, Anise, ouais. Et Elodie. Elodie était enceinte de plus de 9 mois. C'était une sorte de mini remake un peu absurde de Rio Bravo qu'on avait envie de faire comme ça. C'était un cours qui a été fait de manière un peu voilà, sur une espèce de lancée de gestes comme ça. Et voilà, donc c'est vrai que...
Est-ce que ça viendrait de votre mère, ça, qui était assistante maternelle?
C'est une. J'essaye de comprendre pourquoi.
Allongez-vous. Oui, voilà.
Vous pouvez prendre un joker aussi. Voilà. C'est comme vous voulez.
Non, mais c'est vrai que c'est pour l'instant la seule explication que j'ai un peu trouvée. Mmh. Effectivement, on était une famille d'accueil, des enfants de la DAS. Mmh. Ils ont grandi avec nous comme des frères et sœurs. Et ma mère, on lui disait, c'était son travail aussi d'être mère. Et c'était aussi ma mère, maternelle. Enfin, voilà. Et on lui disait, aimez-les, mais ne les aimez pas trop. Mmh. Et j'ai entendu cette phrase beaucoup et je pense qu'elle a c'est une espèce de graine qui est devenue une espèce de graine de recherche un peu romanesque pour moi, mais voilà.
Et ben un peu comme Diane, hein, aime-le mais pas trop cet enfant que tu portes. Le synopsis dit sans hésiter, Diane a accepté de porter l'enfant de Thomas et Jacques, ses meilleurs amis. Sans hésiter, ça c'est un postulat direct, c'est-à-dire qu'on zappe l'introduction là.
Voilà. Bah ouais, je veux être dans cette dynamique-là du personnage, dans ce qu'elle est, comme ça. Être dans cette dynamique, c'est aussi raconter un peu ce qu'elle est, elle aussi. C'est-à-dire qu'elle a foncé tête baissée dans cette affaire. Elle va aller jusqu'au bout de sa mission. Et on va voir le prix qu'elle va peut-être payer émotionnellement de le faire, quoi.
Clotilde Lem, vous comprenez cette démarche altruiste?
Moi, je la comprends du point de vue de Diane, ouais, complètement. Et moi, je me suis mis j'avais le même raisonnement qu'elle, en fait. Un truc assez, je voulais être dans son insouciance et voir son inconscience, à pas trop chercher à comprendre. C'est très simpliste comme raisonnement, en fait. Elle part du principe qu'elle est en mesure de le faire. Elle en veut pas. Ils en veulent un. Ils ont un désir très très fort de paternité. Elle, son désir de maternité est pas très présent, mais elle est capable de le faire parce que jusqu'à maintenant, bah, c'est les femmes qui peuvent porter les enfants, donc voilà. Mais il y a ce côté un peu John Wayne dont on se parlait aussi pas mal avec Fabien, ce côté un peu le fils du désert, quoi. C'est que John Wayne, c'est pas le meilleur d'entre nous, c'est juste celui qui peut faire les choses.
Capable,
en fait,
pour
il
la
est
communauté.
Capable de faire, voilà. Donc on interrogeait ce don-là, cette générosité-là, de ce point de vue-là aussi, quoi.
Une espèce d'arrogance comme ça du personnage de John Wayne, surtout dans La Prisonnière du désert. Je suis capable de le faire. Vous êtes des incapables. Moi, je vais le faire. Ouais. Diane, elle est un peu comme ça. Moi, ouais. Je suis capable de le faire et pas vous. Et ça va s'effriter, évidemment. Ouais. Ça va se fragiliser.
De l'insouciance à l'inconscience,
exactement.
Y a quelque chose qui se passe.
Est-ce qu'elle est courageuse? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle se mette des œillères aussi, du coup, parce que sinon, elle ne peut pas.
Jusqu'où on peut faire croire qu'on a les épaules pour. Et voilà, jusqu'où on peut faire croire qu'on n'a pas d'affect et que ça ne nous touche pas.
Il n'y a pas de débat, c'est pas un film sur la GPA
en fait. C'est un film sur l'après.
Non.
Mais c'est un cas qui. Ce sont des cas qui existent. Il y a beaucoup de Diane en France.
Moi je pense que oui. Sans révéler qui.
Les vraies révolutions sont comme ça. Enfin, les vraies révolutions, c'est pas une révolution qui fait du bruit, c'est une révolution de mœurs. Les choses, voilà, comme ça infusent la société, se passent, arrivent et puis on donne à voir ce qui existe en fait dans ce film.
Pendant qu'elle est enceinte, elle va tomber amoureuse d'un Fabrizio, c'est vous.
Ouais. Vous gardez
le même prénom en plus. Alors vous, avant d'écouter un extrait avec vous, vous venez de Bruxelles, mais vous êtes italien aussi, donc vous avez double culture, la triple même.
Ouais.
Vous avez été révélé par les frères Dardenne.
Ouais.
Dès la deuxième année du conservatoire, vous avez dit un truc étonnant. Vous avez dit être devenu comédien par lâcheté. J'étais nul en tout. Jouer était pour moi la seule chose possible. Ça nous rappelle Laurent Jean.
Exactement. On est incapable de faire autre chose
ça. Ah bah oui,
on est handicapés
fait ça. Ouais, moi j'étais totalement inadapté en fait. J'ai été inadapté toute mon enfance et mon adolescence au monde qui m'entourait. Et j'ai tenté même des études après le bac. Ouais. Et d'ailleurs, bon, je suis sorti très tard parce que je suis sorti à 20 ans parce que j'ai raté trois fois. J'avais un an d'avance en fait. J'avais un an d'avance en rentrant au collège et je suis sorti avec 3 ans de retard. Et enfin, avec 2 ans de retard, et donc comme je venais d'un milieu, ça fait toujours bien, je venais d'un milieu populaire, et donc du coup j'osais pas devenir comédien. J'ai quand même tenté la fac et j'étais tellement nul à la fac que voilà, je suis devenu comédien parce que je savais rien faire d'autre en fait. Ouais.
Exemple concret avec cet extrait du film Diane à les épaules avec Clotilde M.
En fait c'est plutôt comme du yoga. Parce que tu peux pas te battre si c'est aussi lent, non? Ou alors faut que tu tombes sur un type qui a envie de se battre au ralenti. Hein? Si je t'attaque, attention, tu fais comment là?
Tu veux m'attaquer là?
Ouais.
Voilà.
Ah, j'ai tombé.
Voilà. Tu vas te faire mal. Hein.
Garde pas. Oh.
Ah. Vas-y, vas-y, fais voir si t'as
des armes. Non, frappe pas là.
Allez,
fais voir. Non, arrête, arrête.
Allez.
Ah, je suis enceinte.
Quoi déjà?
Non, mais je suis sérieuse. Je suis enceinte de 3 mois.
Quoi, tu plaisantes là?
Mais non, je te jure, je suis vraiment enceinte.
Mais t'as un mec?
Non.
Et donc?
Bah donc rien. Je veux pas en parler.
Bon.
Et je suis pas obligée de me justifier, non? Si, je suis obligée.
Non, mais t'as pas besoin d'être agressive non plus.
Bon, je suis pas.
Bah si, un peu, je trouve. Ok, j'ai compris. Je vais m'y remettre.
Ouais, c'est ça.
Je vais essayer de terminer pour aujourd'hui.
Bon, là, elle est légèrement enceinte, mais plus tard, elle le sera plus gravement. Et on se dit, mais ce ventre a l'air tellement vrai. Clotilde, c'était
le
vôtre.
Ils sont forts en effets spéciaux.
Oui, non, mais là, c'était magnifique. Il faut donner un Oscar au...
Ouais, il est fort, il est très très fort par ailleurs. Le bras déboîté, hein, ça c'est fort aussi.
Non, mais
Mais oui. On s'amuse à dire que j'ai fait une GPC, une gestation pour cinéma. mais c'est faux.
Et en plus, c'est pas la première fois que ça vous arrive, ça, d'être enceinte dans un film.
Ah ouais, mais que c'est la première fois que le metteur en scène l'assume totalement, et même le, enfin voilà, c'était un petit miracle quand même que ça arrive à ce moment-là, hein, c'était pas prévu. Mais.
Donc je comprends quand vous dites Jabob.
Non, c'était pas prévu dans le plan de travail, hein.
Non.
Oui. Ah oui, c'est ça.
Ah, pour toi. Ma grossesse était prévue, mais dans pour le film, non.
Oui, non, c'était pas
prévu. Ah non, j'ai pas tout fait pour obtenir le rôle.
Je comprends quand vous dites du coup j'aborde mes personnages par le corps, c'est pour ça.
Et voilà. Je dis, est-ce qu'il y a un projet en ce moment avec une femme enceinte? Ok.
Et hop, voilà.
Elle n'est pas sacrificielle, cette femme.
Pas du tout. Ouais. Ah non. Non, vraiment, nous, c'est vraiment ce qui nous importait, c'est que ce soit pas du tout. Oui, ce soit la question du don, de la générosité, et même qu'elle sente aussi pas vraiment une générosité non plus. C'est pas une sainte qui décide de faire quelque chose de très altruiste. C'est aussi ça, elle sent qu'elle a besoin de trouver quelque chose dans sa vie où elle sert à quelque chose. Et oui.
C'est aussi un personnage qui met en, si je peux me permettre, qui met en lumière, il me semble, les thèses de Elisabeth Badinter, qui dit que l'amour maternel est un amour en plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas acquis et qu'il s'acquiert éventuellement, dit-elle, le cas échéant. C'est une très très belle illustration de sa théorie, je trouve.
Bah oui, enfin, et puis du coup, c'est vraiment la thématique principale du film, c'est qu'est-ce que c'est que de créer un lien, en fait, parce que il y a ce lien là qui hante un peu le film, est-ce qu'elle va l'avoir ou pas, et en même temps elle est en train de ne pas voir qu'elle en train d'en créer un très fort avec Fabrizio, puisqu'il partage cette histoire avec elle. Ça marche sur le principe inverse de la comédie romantique, c'est pas un coup de foudre qui lance l'affaire, c'est juste des gens qui vont partager un moment ensemble, et à la fin voilà, le lien est fait entre deux, quoi, et c'est le non-père de son non-enfant, et donc ils ont vécu cette histoire là ensemble.
Donc face à vous, il y a ce couple d'hommes pas caricaturaux, c'est rare dans une comédie, un couple, quoi. Ça veut dire deux comédiens, Grégory Montel, l'agent notamment bienveillant de la série 10%. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de points communs, enfin, dans la tonalité de votre voix, avec Daniel Auteuil.
Ah ouais, mais on me le dit tout le temps. On me dit depuis toujours. Moi, je suis du sud de la France, je suis du sud-est.
Et comme lui.
Il a avignonné. Et bah oui. Et en plus, c'est un acteur que je vénère depuis assez longtemps, parce que c'est
non, parce qu'il y a deux Daniel Auteuil à table. Parce que Fabrizio, on lui dit ça tout le temps.
Exactement.
Hier encore.
Oui.
C'est vrai.
Hier encore, on te l'a dit, Fabrizio.
Bah, écoute, je sais pas quoi dire là.
Jouer un couple d'hommes, c'est jouer un couple tout court.
Oui, absolument. Absolument, oui, c'est jouer deux personnes qui partagent des choses, qui sont amoureuses, et oui, on est bien d'accord que si on peut éviter les clichés. Moi, j'aime bien m'y vautrer parfois dans les clichés, mais là, j'ai été.
On t'a calmé on l'a tenu.
Vous voulez refaire un sketch avec une biscotte?
Absolument, et en plus, je le fais très bien.
J'étais sorti très frustré au départ.
On était assez prêts à jouer la
Thomas Suire, reposez-vous alors.
Bon, il avait tendance, il avait le petit doigt qui se levait tout seul. Parfois, il fallait lui redescendre un petit peu le petit doigt parce que ça avait tendance à.
Alors vous avez déjà joué avec Fabien Gorgeard, donc.
Oui, on a fait 4 courts-métrages.
Thomas, c'est ma muse. C'est simple, c'est vrai. J'ai mon premier court, je l'avais découvert dans un film de Guiraudy qui s'appelle Pas de repos pour les braves. C'était lui, le brave premier. En question, qui ne s'endormait jamais. Guiraudy, oui. Et un coup de foudre pour lui. Et puis après, j'ai fait tous mes cours autour de Thomas.
Et Thomas, vous êtes aussi musicien.
Tout à fait.
Et ce groupe s'appelle Infecticide.
Exactement.
Et vous êtes aussi. Pourquoi vous riez, Fabrizio ?
Des réponses un peu plus longues, vous êtes, mais enfin bon.
Non, parce que nous, on connaît. Parce que oui, nous, parce que voilà. Infecticide, c'est tellement poétique, quoi. Oui. Il y a tout est dit, quoi.
Non, et puis Thomas, il a un univers, quoi.
Oui,
il,
c'est
voilà,
ce que
c'est quelqu'un
dire.
Qui travaille ouais. un univers tellement fort autour de lui. C'est très grisant. Il est très enthousiasmant pour ça. Et Infecticide, effectivement, c'est lui, c'est son œuvre, et ça vaut vraiment le coup.
Thomas Suire et Grégory Montel dans cette super scène chez la gynéco.
Allons-y. Ça m'a coupé le souffle, quoi. C'était très bas et ouais. c'était très très ouais. intense. Quoi.
Non mais il n'y a aucune inquiétude à avoir, vous avez une très belle grossesse. Je vois rien de particulier, tout va bien. Votre col est un beau col de 7 mois.
J'aurais pas de cerclage.
Non, rassurez-vous.
C'est quoi ça, un cerclage ?
On comprime le col avec un fil de manière à le resserrer.
Ouais, parce que ma mère a eu ça pour moi, en fait.
Ah
enfin,
bon
quand elle m'attendait, ouais, donc j'ai peur que ça soit transmissible.
Ah, non. Non, non, non. D'ailleurs, on n'en fait presque plus, vous savez. Pour les dilatations précoces de col, on passe par des traitements à base de progestérone.
D'accord.
Et c'est dû à quoi, les dilatations ?
Il y a tellement de facteurs. Ça peut être un placenta trop lourd, trop d'efforts.
Ah bah, elle fait du kung-fu.
Ah oui ?
Oui.
Ah bah, faut arrêter ça, par contre.
Non, pas du tout. Bah, non.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Mais c'est pas du kung-fu, c'est du yi-shuan, en fait. C'est beaucoup plus doux.
Oui, yi-shuan.
De toute façon, c'est à vous de sentir vos limites.
Et, excuse-moi de poser la question, est-ce que faire l'amour, c'est conseillé ?
C'est pas contre-indiqué.
Mais c'est
non, je demande parce que j'ai lu qu'avec l'orgasme, tu sécrètes des hormones qui peuvent déclencher les contractions. C'est l'hormone du plaisir, ça s'appelle la piostacine.
L'ocytocine. Ouais. C'est en toute fin de grossesse que ça peut arriver à ce stade. Il n'y a aucune raison que ça déclenche quoi que ce soit.
Ouais, franchement, si moi j'ai besoin de ce genre d'infos, c'est moi qui le demande. Ça le regarde pas, non ?
Attends, j'ai peut-être le droit de m'inquiéter aussi ?
Ouais, mais des questions pareilles, c'est pas...
Je préférerais que vous ayez ce genre de débat hors de mon cabinet.
Tabou. Ah oui, c'est tabou.
Non, mais c'est pas des tabous, mais ça va.
Si on s'inquiète... Mais je veux juste savoir pourquoi tu commences une histoire pile maintenant avec un mec qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam il y a encore 3 mois et qu'on verra plus dans 2.
Mais qu'est-ce que vous en
savez ? T'as jamais gardé un mec plus de 15 jours dans ta vie ?
Ça va ? Oui, ça va. Apparemment, c'était juste des contractions de répétition, alors...
Excuse-moi, est-ce que tu veux bien nous laisser 2 minutes, s'il te plaît ? Faut qu'on parle.
Ah, vas-y, je te rejoins. On a un petit truc à régler, mais... J'arrive. Bon, franchement, je trouve que
Tu te permets, c'est d'imaginer que c'est ce bite qui va t'écarter le col. Je sais pas si tu te rends compte des images que j'ai dans la tête.
Pardon, est-ce que tu t'excuses, s'il te plaît ?
Arrête-toi, tu penses la même chose.
Non, tu t'excuses tout de suite ! Sinon, je t'en colle une, là.
Non, mais, je plaisante ! Ça va, on peut se parler comme ça tous les deux. Non ? On peut pas se parler comme ça tous les deux ?
Si, si.
Fabien Gorgeard, j'aime bien cette scène parce qu'elle reflète vraiment les deux tonalités du film, quoi. C'est vraiment une comédie et c'est pas un drame, mais je sais même pas comment le qualifier, le film.
C'est une... Ouais, moi non plus d'ailleurs.
Okay. Il y a des enjeux sérieux, quoi. Qui sont
voilà, exactement. Ouais. C'est qu'à un moment donné, on peut pas faire tout le temps le malin non plus.
Non,
justement,
non,
et
non.
Eux, c'est un peu leur principe. Ils font les malins, ils sont toujours un peu rattrapés par le fait qu'ils peuvent pas le faire tout le temps non plus. Et qu'il y a une forme de oui, effectivement, de gravité, et au sens même figuré du terme, parce que le ventre va être là, va prendre cette place-là, il va prendre cette importance-là, et voilà.
Puis donc, elle a comme une frontière à garder,
ouais.
Mais c'est un peu poreux aussi, forcément. Ils
ouais.
ont leur mot à dire, et jusqu'où elle arrive à garder cette frontière-là, qui est quand même celle de son corps aussi, celle de son choix, et jusqu'où elle va pouvoir garder sa mission jusqu'au bout.
Qu'est-ce que ça raconte de l'intimité, quoi ? Du coup, ouais. Voilà, on replace l'intimité à un autre endroit, il faut réinventer effectivement toutes ces frontières, ces limites.
Ouais. Et avec un père, c'est compliqué, mais alors trois, bonjour les gars.
Comment on joue à une question à tous les trois, justement, comment on joue ça de passer d'un registre un peu à l'autre, quoi ? C'est très, très ténu, hein.
C'est très écrit déjà par Fabien,
oui.
Finalement.
Ouais.
Il y a déjà beaucoup d'humour dans son écriture. En même temps, le sujet est assez sérieux. Donc déjà, d'office, on est un peu obligé de passer de l'un à l'autre.
Puis sauf qu'on aime bien s'amuser, alors on aime bien aussi faire partir ça un petit peu.
Ouais. Et puis pas mal de temps aussi, pas mal de la chance d'avoir le temps de pouvoir s'amuser lors des prises aussi. Je pense que ça permettait aussi de lâcher certaines choses et on pouvait à la fois c'était écrit puis on pouvait laisser aller aussi.
Et puis, pour
vous, Fabrizio, un enjeu particulier, c'est-à-dire d'exister à travers ça, quoi.
Mais justement, en fait, moi j'étais vraiment dans le côté dans le côté clown blanc. En fait, j'ai essayé de développer un maximum. Vous savez, il y a toujours une règle de base en comédie qui est qui vient de la Commedia dell'arte, il y a l'Auguste et le clown blanc, quoi. Il y a le contrepoint, quoi. Et moi, j'ai senti assez vite, face à Clotilde, qu'en fait, moi, je devais assumer le côté clown blanc et donc le côté en retrait. Et donc, c'était surtout, moi, j'essayais d'être toujours dans le, enfin, de construire un personnage qui était plutôt dans le non-dit, dans le regard, dans le retrait, quoi. Et en retrait. Et donc, du coup, c'était un peu. Des fois, c'était un peu difficile parce que c'était, on était justement dans la, pas dans la
c'était
comédie, pas dans
subtil,
le drame.
Ouais. C'était plus subtil. Et puis c'est vrai que pour toi, le mal alpha italien.
Le mal alpha, c'est ça que j'allais
dire. T'as dit un truc très beau hier, il a découvert le film hier, il dit que Fabien a révélé sa part féminine.
Voilà. Et c'était pour un mal alpha comme moi qui voilà, était assez difficile.
Le non-dit et le dire comme dans cette scène.
Tu comptais me le dire quand elle est installée chez eux?
Attends, d'une, ça te regarde pas. Voilà, et puis de deux, j'ai pas encore pris ma décision. Non, mais en vrai, tu lui as dit quoi? Et il comprend rien, là, hein? Il est complètement angoissé.
Et alors, c'est pas bien grave, un peu d'angoisse, ça peut pas lui faire de mal, si? Les mecs, il faut qu'ils aient tout bénef, zéro contrainte, rien. Oui, bonjour, on voudrait un enfant. Bien sûr, revenez dans 9 mois. Merci, madame la cigogne, on vous doit quelque chose? Non, cadeau de la maison.
Et ben voilà, ça, c'est exactement comme ça que je veux que ce soit.
Tu crois vraiment que tu vas pouvoir t'en séparer comme ça? D'un claquement de doigts.
Mais de quoi tu parles? Il n'y a pas de raison. J'ai jamais eu envie d'un enfant. C'est pas en moi. Et ça n'y sera jamais.
Vraiment? Tu crois vraiment ce que tu dis?
Eh oui, vraiment.
Donc tu détestes être enceinte?
Mais non, enfin ça...
Oui, tu regrettes.
Mais ça n'a rien à voir! Être enceinte et avoir un enfant, ça n'a rien à voir!
Et comment tu le sais, puisque t'en as jamais eu?
Ben je le sais, puisque je le vis.
Et ben moi j'ai du mal à te croire.
Ben je m'en fous! Mais j'en ai rien à foutre de ce que tu crois, moi. Rien à foutre! Tu peux croire ce que tu veux, je m'en fous! Ça m'intéresse pas ce que tu penses. Viens fumer ailleurs.
Être enceinte et avoir un enfant, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la phrase clé du film.
Ça se craquelle quand même un petit peu quand elle le dit. On n'est pas très très sûr qu'elle va y arriver.
Ce qui est intéressant, Fabien, c'est que cette scène-là, elle aurait pu être avec genre la meilleure amie, comme dans les comédies, vous voyez. Et ce qui est bien dans le film, c'est qu'il n'y a pas de meilleure amie, une fille, je veux dire.
Bah oui, parce que au départ, quand on pense à un projet, on tire un peu des gros traits comme ça, et après qu'on affine et qu'on incarne. Mais j'étais parti sur l'idée que c'était un monde où il y avait que des hommes et juste une femme pour leur faire des enfants, quoi.
Qui est un peu un garçon manqué aussi.
Et en plus, et du coup, s'amuser du principe que que ce déséquilibre là et ça allait circuler. Mais c'était l'idée qu'il y avait c'était surtout un monde où les hommes sont brûlés par le désir de devenir père et où les femmes les font. Donc il y en a qu'une pour les faire pour tous les autres, quoi. Voilà.
Peu à peu, donc sa tête et son ventre vont se rapprocher.
Bah oui, c'est comme si, enfin, on sent que cette expérience va quand même la modifier. Il y a une sorte de, quand même, de chemin, d'initiation, quoi. Il y a un côté un peu ado, délinquandé, inconscient, insouciant, et même à côté de la plaque, quand même, un peu. Et puis, on va voir que ça va la modifier profondément, et que c'est presque un chemin vers la gravité, aussi.
Vers la responsabilité.
La gravité gravitationnelle.
Qui a parlé là?
C'est moi, pardon.
Ah, pardon. C'est Grégory Montel.
C'est
Daniel.
Sort de ce corps. Vous disiez donc, Grégory. Non, mais allez-y.
Tu laisses pas parler les femmes, quoi.
Non.
La responsabilité, ouais, c'est ça.
Oui, la responsabilité. Ouais, voilà. Non, c'était pour revenir sur le film. On en parlait l'autre jour. On parlait de la responsabilité de ce film. Il a une responsabilité, à la fois une ouverture de débat, même si c'est pas son but ultime, et la responsabilité de montrer à quel point c'est compliqué, à quel point ces émotions-là sont pas vraiment identifiables, en fait.
Ouais.
Oui, c'est vrai que c'est un film complexe. Et c'est ça qui est beau, en fait, finalement. La vérité, enfin, moi, je dis tout le temps que les vérités n'existent pas. Elles n'existent finalement que dans des fictions, quoi. Et en fait, on voit que même dans une fiction, cette vérité est complexe et les personnages sont complexes.
On est face à une histoire individuelle.
Ouais.
C'est agréable qu'on ne nous impose rien, d'ailleurs. Et même quand on jouait, c'était agréable qu'on ne nous impose rien.
C'est-à-dire
rien, parce que je trouve que c'est.
Mais il nous disait rien, il nous.
Non, c'était la gêne.
Non, j'étais pas là.
Non, mais dans le sens où c'était généreux. C'était généreux.
Mais vous disiez quelque part que, je sais plus où j'ai vu ça, que vous jouiez avec eux. Mais qu'on vous voyait pas dans le film.
Oui.
Mais vous avez beaucoup joué avec eux.
Bah, oui, c'est une manière de dire que moi je vis. Enfin, effectivement, la direction d'acteur, c'est. J'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, dans mon petit parcours, c'est ce qui me plaît le plus. C'est mon moteur, j'ai envie de faire des films pour être avec des comédiens et dans l'écriture comme ça on est déjà tellement investi d'eux que quand ils sont là, qu'ils sont incarnés, c'est à la fois on les accompagne, on n'a pas envie de lâcher aussi les personnages qui ont été les miens jusque là quoi. Donc il y a c'est pour ça qu'il y a une espèce de peut-être d'adéquation entre nous, mais moi je voilà.
En fait, vous avez créé une famille avec ce film.
Peut-être, oui. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est ce plaisir aussi de. C'est pour ça que j'ai écrit, parce que j'ai écrit pour Clotilde, effectivement, mais j'ai écrit aussi pour Fabrizio, pour Thomas.
Mais pas pour.
Du coup, il faut toujours laisser une place pour rencontrer quelqu'un de nouveau et se renouveler. C'est celle-là.
Il est trop cher.
arrêtez.
Pardon.
À cette famille correspond, je trouve qu'il y a un autre personnage dans le film, c'est la maison. Quand est-ce que c'est venu cette idée que c'était une maison en reconstruction qui était évidemment liée à une autre maternité, une autre grossesse qui
Absolument. La maison en construction, c'était déjà une idée dans le scénario, mais c'était. Moi, j'ai bénéficié des résidences d'écriture pour écrire le film et j'étais perdu dans les Landes. Maison. Donc j'avais un peu cette envie de maison isolée, mais cette maison elle se trouve à côté d'Agen et en faisant une recherche pour les repérages, c'est une des premières que j'ai vues. Et quand j'ai vu cette espèce d'arrondi effectivement devant, il y a une évidence là. Voilà, j'ai vu plein de maisons, mais celle-là a toujours gagné. Et il y avait l'idée de la piscine était déjà très présente dans le scénario et donc c'était des cercles de cercles de cercles autour d'elle.
C'est la maison de l'héritage quoi.
C'est la maison de l'héritage, le ventre, voilà, c'est la matrice. Enfin tout ça était a pu s'incarner. J'aurais même pas eu l'idée au scénario et visuellement la matrice était là et on lâche plus une idée comme ça, quoi.
Tout ça est très légitime. Et en plus, il y a eu un enfant qui est né pendant le tournage.
Oui. Enfin, après, en fait, en post-production.
Et c'est
ma fille, donc.
Incroyable.
Et qui est dans le film, du coup, parce qu'effectivement, on était hanté quand même par deux problématiques d'incarnation dans le film. C'était comment filmer une grossesse et puis un enfant, parce que l'enfant, à la fin, ça doit pas être rien non plus. Ça doit pas être facile de filmer ces enfants-là. Et donc, c'était très, voilà, ça m'a beaucoup questionné pendant la préparation du film. Et puis, il y a eu, voilà, ce miracle dingue. On a pu faire des plans de Clotilde enceinte avant le tournage en studio. Et donc, c'est les plans de la piscine. Et puis, on a laissé un plan vide. Et on a pu le faire une fois que ma fille était née et on l'a rajouté après au montage. Voilà.
Vous étiez un peu ému avant le début de l'émission parce que c'est émouvant un premier film.
Absolument, je vis tout ça. Là, je ne sais plus si j'en suis au stade du postpartum, du baby blues, de montée d'hormones, etc. Non, c'est extrêmement intense, c'est extrêmement joyeux, émouvant. Et puis, c'est vrai que en fait, c'est la première fois qu'on se retrouve en plus là tous ensemble pour un moment promotionnel et même pour des projections. Ça ne s'est pas vraiment retrouvé. Donc voilà, le film est sorti. Du coup,
Mais vous ressemblez à votre film et merci d'être là tous. Ça s'appelle Diane à les épaules et c'est sorti mercredi. Allez-y, on se retrouve pour les sorties après The Bar Brothers.
Merci. Summer and fall.
Cause it came to me.
Les sorties de la semaine à côté de Diane à les épaules, même si il est plus haut dans notre cœur. On va commencer par Bangkok Nights, du cinéaste japonais Katsuya Tomita. Une prostituée dans un bordel de Bangkok a fui sa province près du Laos et fait vivre sa famille, mais un ex-client va l'accompagner là-bas. Un cinéma, dit le Réal, entre Ferrara et Veracita Cool.
Ben c'est pas mal, il a raison. Non mais c'est bien de se décerner des brevets quand il y a droit. Son film précédent, je crois son premier film, d'ailleurs, s'appelait Saudade. Et ben il y a beaucoup de mélancolie dans son film. C'est ça qui en fait, à mon avis, tout son prix et tout son charme. Parce que effectivement, le quotidien de ces prostituées est pas d'une franche gaieté. En même temps, sa façon de le mettre en scène est complètement séduisante. Il croit au cinéma, ce garçon. C'est bien de voir des films de gens qui croient au cinéma, parce que ça donne la pêche. Et en même temps, il a un pouvoir de recréation et une capacité de dépassement de ce qu'il raconte. Une capacité de se mettre à distance. C'est-à-dire, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de pittoresque, il n'y a pas non plus d'une dénonciation qui serait purement sociale. Bref, c'est vraiment un beau film de plongée dans un univers intimiste qui pourrait sembler lointain, Bangkok, les prostituées, et qui pourtant, bizarrement, nous semble finalement extrêmement proche. Ça s'appelle Bangkok Nights.
Il a aimé, alléluia. Le Summer, premier film de Marine Francène, qui a adapté le texte L'homme semence de Violette Ayot. 1852, l'armée de Louis-Napoléon Bonaparte écrase la résistance des républicains. Après des mois passés dans un isolement total, les hommes sont partis, Violette et les autres jeunes filles du village se font un serment. Si un homme vient, il sera celui de toutes. Une histoire proche de celle des proies de Don Siegel, hein, pas celle de Sofia Coppola. Un groupe fermé de femmes confrontées à une présence masculine et donc au désir. Mais la comparaison s'arrête là. Summer est beaucoup plus doux et pastoral et moins tendu sexuellement que les proies. En contrepartie, il propose propose un portrait choral plus pur, en retenue sur le désir de chacune en fonction de leur âge et de leur situation. Des femmes aussi conscientes de la survie d'une communauté, le tout filmé dans les paysages sublimes des Cévennes et servi par un beau casting en tête Pauline Burlet et une mention spéciale pour Françoise Lebrun, vraiment trop rare, au cinéma. Marilyn de Guillaume Gallienne. Marilyn a grandi dans un petit village, ses parents ne recevaient jamais personne et vivait les volets clos. À 20 ans, elle monte à Paris pour devenir comédienne, Laurent.
Alors d'abord, il faut donner acte à Guillaume Gallienne de pas avoir fait, après Les Garçons et Guillaume à table, son gros succès mérité. Ouais. Guillaume et les garçons au ski, ou Guillaume et les garçons à cheval, ou Guillaume et les garçons à la messe, ou encore Guillaume et les garçons à la ministre pour tous. Bon, ça, c'est très bien. Il faut lui donner acte, parce que, franchement, il y avait une tentation. Je sais pas si elle a traversé l'esprit, je fais peut-être un procès d'intention. Je pense que les producteurs, eux, auraient bien aimé. Il le fait pas, et ça, c'est tant mieux. Il fait le focus sur ce personnage, effectivement, que vous venez de décrire. Alors, il y a une très belle scène, ou un très beau moment dans le film, c'est pas une scène, c'est un très beau moment. C'est Vanessa Paradis qui intervient de façon lointaine dans le film, mais elle joue le seul personnage, à mon avis, intéressant réellement du film. Et puis surtout, donc restez jusqu'au bout du film, parce que à la fin du film, le générique de fin, c'est une chanson de Léo Ferré, Cette blessure, qui est une sublime chanson, et que Paradis réinterprète de façon sidérante. Alors, est-ce que c'est très gentil de dire qu'il n'y a qu'une chanson à entendre quand on va voir un film? Je n'en suis pas effectivement certain, non. Tout en le disant, je m'en aperçoit, mais en même temps il y a beaucoup trop de théâtre, pas du tout assez de cinéma, et une avalanche de personnages qui sont des crétins, des décérébrés, que Gallienne n'aime pas, et à force de ne pas aimer ces personnages, à part peut-être Vanessa Paradis, ben on finit par tomber dans un cinéma absolument désincarné.
Elle joue un peu le rôle de Jeanne Moreau, Vanessa Paradis.
Il y a du vrai dans ce que vous dites.
Kiboula, de Georges Ovachvili. Alors, c'est un portrait du président de Géorgie, qui incarnait autrefois l'espoir d'une nation nouvelle et qui tente de reconquérir le pouvoir. Laurent, escorté par une poignée de fidèles, il traverse clandestinement les paysages de Géorgie. Ce n'est pas un doc, mais c'est une fiction.
Oui, bien sûr. Et on connaît du même réalisateur géorgien le précédent film La Terre est éphémère, qui était un superbe poème visuel, cinématographique, graphique, très 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 beau. Alors là, il fait autre chose, et c'est tant mieux, parce que effectivement, l'itinéraire de ce président en exil intérieur, dans son propre pays, tout le monde lui dit de partir, mais lui ne veut pas. Lui, il veut rester dans son pays, c'est normal, quand on est président, on a envie de rester. Or, il est chassé par des militaires au pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement une sorte de fable politique qui pourrait être même un peu lourde, c'est d'abord un incroyable portrait de quelqu'un qui devient face à lui-même, face à ses responsabilités, face à ce qu'il ne peut plus faire, peut-être. Et c'est la lente description, le lent portrait d'un effacement physique, intellectuel, évidemment politique, moral aussi. C'est ça que réussit très très bien à montrer Ovachvili dans cette longue, longue, longue descente aux enfers.
Ça s'appelle Kiboula.
Oui.
Le musée des merveilles de Todd Haynes, sur deux époques distinctes, le parcours de Ben et Rose à New York, deux enfants. Ben rêve du père qu'il n'a jamais eu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. Donc deux enfants dans une quête symétrique. C'est la première chronique enfantine de Todd Haynes et une double reconstitution historique de New York formellement admirable. Un vrai cabinet de curiosité, ce film. Un hymne donc à New York, à l'enfance, à la différence, une réflexion sur les origines, le passé, les liens familiaux, la transmission, mais qui s'épuise sur l'alternance des deux époques et dont l'issue va se deviner facilement. Laurent, moi je l'ai contemplé, ce film, sans jamais vraiment le ressentir.
Oh bah moi je prends pas mon ticket au Musée des Merveilles. Non, c'est un bric-à-brac, mais c'est insupportable. Au bout d'une heure, il y a un cœur du film où il y a effectivement un montage alterné avec, en plus c'est quand même très très plan-plan, c'est-à-dire que les années 20 c'est en noir et blanc et muet, et les années 77 c'est pop et en couleur. On peut avoir envie de faire les choses convenues, mais à ce point-là, on regrette quand même Todd Haynes, qui nous avait, me semble-t-il, entraîné dans des univers un peu plus subtils, un peu plus intéressants. Là, franchement, notamment cette espèce de double histoire identique et alternée, très 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 mélo, pour moi ça ne passe pas.
Chavela Vargas de Catherine Goon et Darecha Kri de Frida Kahlo à Pedro Almodovar, artiste inspirante et inspirée, le récit composé d'images rares qui révèlent cette femme iconoclaste.
Oui, alors moi j'avoue que je ne connaissais pas, je crois qu'on est un assez grand nombre dans ce registre-là, dans ce cas-là. C'est pas le cas effectivement d'Almodovar, pour qui c'est vraiment une icône. Alors c'est quelqu'un qui est morte en 2012 avec un parcours de vie sidérant. Vous rappeliez son voisinage avec Frida Kahlo et Diego Rivera. On raconte aussi, on le voit dans le documentaire, que elle serait partie en promenade avec Ava Gardner au moment d'un mariage de Liz Taylor. Je trouve ça l'histoire est extraordinaire. Ouais, bon. Donc elle est homosexuelle, effectivement, c'est donné comme ça. Avec, par exemple, un ultime concert dédié à Liorca. Non, c'est une très très belle figure et on se plaît, on aime la découvrir tout simplement dans ce beau documentaire.
Paradis de Andrei Konchalovsky. Trois destins croisés. Olga, une aristocrate russe qui a émigré en France et qui, quand la guerre éclate, la seconde, va rejoindre la résistance. Jules, bon père de famille français, fonctionnaire de police, lui choisit de collaborer au régime nazi. Et enfin, Helmut, fils de la noblesse allemande, exalté par l'idéal d'une société de surhomme, devient officier SS dans un camp de concentration où il va retrouver Olga, son amour de jeunesse qu'il tentera de sauver. Quel drôle de film sur les racines du mal et pour quel motif? Tourné en noir et blanc, entrecoupé de confessions face caméra des trois protagonistes à la manière de fausses archives, Konchalovsky s'attardera plus longuement sur l'officier nazi dont il décrit le basculement tout en expliquant ses motivations. Et c'est à peu près le seul personnage romantique du film. Le paradis, donc, ce serait celui rêvé par les nazis, ce serait celui du passé, ou ça serait, bien sûr, l'au-delà. Mais où va-t-il en venir, Konchalovsky?
Moi, je ne sais pas. On est bien loin de son précédent film magnifique qui s'appelait Les Nuits Blanches du Facteur. Ouais. Je suis un peu gêné quand même par quelque chose de très simple. C'est un film, donc, sur la Shoah, autour de la Shoah, avec qui se passe notamment dans un camp de concentration. Or, on ne voit pas une seule victime juive. Si, il y en a une. C'est un capot juif. Moi, je trouve ça un peu curieux, franchement, et malaisant, effectivement.
Faire la parole, c'est le premier doc d'Eugène Green. Que reste-t-il de la culture basque? C'est ça la question du film.
Ça, on dirait une chanson de Charles Trenet. Non, je ne sais pas. Oui, alors c'est son premier doc à Eugène Green qu'on connaît bien comme un grand fictionneur aussi, et puis un amoureux de la langue française. Alors je ne savais pas qu'il était amoureux de la langue basque, même si effectivement elle est plus ancienne que la langue française. On comprend. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est quand même qu'on ne pose la question ni de l'identité, ni du communautarisme, ni du repli sur soi. En Europe, en Espagne, en ce moment, il me semble que ces questions à se poser, et qu'on devrait peut-être se les poser quand on parle de la langue basque. On n'y pense pas, ici, pas du tout. Il y a de la musique, il y a des chansons très belles, incontestablement, mais franchement, un documentaire qui nie à ce point-là certaines réalités autres que celles qu'il décrit, c'est un peu dommage.
Et on va finir par... Mais il n'y a pas un festival à annoncer, quelque chose?
Mais si, il y a un festival en ce moment au Forum des Images, grand festival dont le thème est Un État du Monde, vaste sujet, avec Pablo Larraine, Ariane Ascaride, et Mohamed Razoulov, le cinéaste iranien emprisonné en ce moment dans son propre pays. Ouais. Et qui sort un film qui s'appelle Un homme intègre, qui est formidable. Et puis, du 20 au 26 novembre, on ira à Cannes, aux rencontres cinématographiques de Cannes, avec des films en compétition, beaucoup de publics scolaires, des masterclass et des ateliers, s'il vous plaît.
Et les cadeaux?
Mais oui, les cadeaux maintenant, tout de suite. Clotilde Lem est venue pour ça, elle nous en parlait. Et donc, on va en fait détailler pour chacun de vous un DVD extrait d'un beau catalogue d'un éditeur qui s'appelle Artus Film et qui a une collection qui s'appelle Les Classiques Américains. Alors, premier DVD, c'est Scandale à Paris de George Sand, avec George Sander, et le film est un film de Douglas Sirk. Wow. Vous aimez les mélos, etc. Vous n'allez pas être déçus.
Génial, merci.
Voilà.
Merci.
Allez, je vais les passer comme ça, les prends qui veut. Le fils du pendu de Frank Borzage, s'il vous plaît.
Ça inspire qui, le fils du pendu?
Le fils du pendu. Allez, Fabrice, vous
merci.
Qui est inspiré par L'étrange Mr. Sled avec Jack Palance?
Merci infiniment.
Qui est inspiré par Au-delà de demain de Monsieur Sutherland avec Harry Carey? Est-ce que oui, Grégory, ça vous inspire? Et alors, j'en ai plus qu'un, et c'est pour vous. Pour vous, le réalisateur de Diane à les épaules, Les Cinq Survivants. C'est pour vous, c'est un film qui fait peur. Voilà, c'est cher ce film. Franchement, c'est bien parce que ça sort des sentiers balisés, des 25e rééditions du même DVD. Là, on a des films rares et c'est aussi pour ça qu'on a tenu à vous les offrir.
Merci beaucoup. Merci.
Eh ben, je crois que c'est terminé maintenant. Il est temps, vite.
Vous nous retrouvez sur franceinter.fr.
Merci Fabien Gorjard pour ce premier film Diane à les épaules qui est sorti mercredi. Merci Clotilde M pour être la belle étincelle de ce film. Merci à vous trois garçons. Thomas Suir, Fabrizio Rongione et Grégory Montel.
Merci.
Ça va être à vous pour le générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée
par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs. et des acteurs.
Et il y a aussi des scénaristes.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique.
Sporto Cantès a écrit la musique.
Muriel Perez, oui.
Martine Messonnier
s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par
présentée par Christine Masson.
Et Laurent Delmas.
Présentée par Christine Masson.
Christine Masson et Laurent Delmas.
Moi, Christine Delmas, j'y étais.
Grégory Montier, John et
Julien Gorgard, j'y étais aussi.
J'y étais.